Je suis très heureux de reprendre ce service de la prédication ce matin. Et j'aimerais partager avec vous le fruit de quelques pensées de méditation au cours de ces 3 semaines de pause estivale où avec mon épouse, nous nous sommes engagés bénévolement à la colonie de vacances La Bécède. Pour ma part, je me suis joint à l'équipe chargée de l'aumônerie et des temps spirituels, dont la mission était de soutenir spirituellement non seulement les animateurs, le staff, mais également d'apporter avec l'équipe des temps spirituels, des animations bibliques permettant à des jeunes de découvrir la richesse de l'amour de Dieu à travers la diversité des rencontres au fil du texte biblique. Et l'un des livres bibliques qui nous a intéressés et qui m'a particulièrement encouragé est celui d'Esther. Imaginez une jeune femme orpheline, juive et exilée, se retrouvait au cœur du palais le plus puissant de son époque, en Perse. Hadassa, son nom d'origine, est donc cette jeune juive qui va se retrouver déportée en Perse au temps d'un certain roi, Sexerce ou Assuérus, celui dont on dit que l'empire s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Esther ne s'y trouve pas de son propre gré et elle ne cherche pas les dorures du palais, mais son histoire et la trajectoire de sa vie la conduira au cœur de ce palais. Lorsque Ahasuérus cherchera une nouvelle reine, c'est Esther, son nom perse en quelque sorte, Ishtar, la princesse ou alors le nom d'une divinité locale, c'est elle qui sera choisie. Cependant, derrière les dorures et derrière les tables de ce banquet offert par Xerxès, un drame se prépare. Aman, haut conseiller du roi, élabore un plan visant à exterminer le peuple juif. À première vue, Esther est bien trop petite pour changer le cours de l'histoire. Jusqu'à présent, on ne sait presque rien de ce qu'elle pense, de ce qu'elle dit ou ne dit pas. Mais son oncle Mardoché va l'encourager, c'est l'un des tournants pour moi de ce récit au chapitre 4, en lui adressant un message et en lui posant cette question qui va nous intéresser. Et si c'était pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther est invitée à travers cette question à se positionner, à faire un choix, garder le silence pour se protéger ou risquer sa vie pour défendre son peuple. Son courage et sa foi feront la différence. C'est un livre unique dans la Bible par aussi le fait que Dieu n'y est jamais nommé. Et pourtant, il agit dans chaque détail une coïncidence, une insomnie. Dieu est là partout, sans jamais être nommé. Rien n'est laissé au hasard. Et si hasard il y avait, alors il faudrait que le dé de la fin prenne une majuscule pour dire que c'est bien Dieu qui conduit tous ces événements. Cette histoire va nous rappeler que même quand Dieu semble silencieux, même quand Dieu semble absent d'un moment de ta vie, il est toujours présent et à l'œuvre. J'aimerais parler avec vous ce matin de courage. Le courage qui peut changer le cours d'une histoire. C'est un peu le grand enseignement pour moi que m'a apporté la lecture du livre d'Esther. Il y en a bien d'autres. Que ferons-nous lorsque nous serons placés devant un choix qui exige courage et foi? Peut-être personne ne sera confronté un jour à aller dans un palais, à rencontrer peut-être un dirigeant ou à risquer sa vie dans une décision. Mais qui sait? Les circonstances, les épreuves, les moments décisifs de votre vie. Peut-être avez-vous déjà traversé des moments aussi critiques par le passé. Mais nous sommes là et nous vivons encore. Qui sait de quoi sera fait demain? Qui sait quelle décision tu auras besoin de prendre? Et combien tu auras besoin de courage et de foi? J'aimerais proposer à notre méditation trois figures de courage rencontrées au cours de ma lecture de ce livre d'Esther. Tout d'abord, nous lirons le chapitre 1, les versets 10 à 12. Pardon, je n'ai pas préparé de support. Je suis allé en vacances sans avoir trop la charge mentale de cette prédication. Ça va vous permettre d'ouvrir vos applications ou vos Bibles, encore mieux. Texte. Nous lisons au verset 10 à 12 du livre d'Esther, « Le septième jour du banquet, fête, comme l'empereur était égayé par le vin, il ordonna aux sept eunuques spécialement attachés à son service, Meruman, Bizta, Arbona, Bicta, en fait tout ce qu'on aime comme nom dans la Bible, Abacta, Zétar et Carcas, de faire venir l'impératrice Vashti en sa présence, couronnée du diadème impérial. Il voulait montrer aux hommes de tous les peuples rassemblés et aux ministres combien elle était belle, car elle était effectivement d'une beauté remarquable. Les eunuques transmirent à l'impératrice Vashti l'ordre de l'empereur, mais elle refusa d'aller se présenter devant lui. Celui-ci en fut vivement irrité et se mit dans une violente colère. J'aimerais nous proposer la figure de Vashti comme une figure de courage. Le courage de dire non à l'indignité et à l'humiliation. Le courage de dire non à la chosification de l'humain. Il est vrai que le texte biblique ne nous fournit aucune explication sur les motifs du refus de Vashti de se présenter devant le roi. Certains commentateurs soulignent que dans ce contexte oriental, se présenter devant une assemblée d'hommes ivres était une humiliation qu'une femme honorable comme Vashti ne pouvait accepter de souffrir. Un autre commentateur, Daniel Arnold, va dire « Vashti ne personnifie pas les femmes rebelles. » Moi, je dirais les femmes fatales. Vous savez, il y a tout un imaginaire dans notre culture de la femme fatale, de la femme séductrice, de la femme tentatrice, de la femme qui harponne pour ensuite vous mettre à terre. Et peut-être que on pourrait investir ici Vashti comme telle, mais ce n'est pas le cas. Elle n'est pas ici l'égérie des femmes fatales, soi-disant. Elle n'est pas ici l'égérie des femmes rebelles. N'en déplaise à ces messieurs qui vont dire au roi, si tu laisses faire, toutes nos bonnes femmes vont prendre exemple et ne nous obéiront plus. C'est quand même extraordinaire cette histoire. Vous voyez, c'est pas l'affaire de la dernière mode. Ça a commencé depuis très longtemps. Et nous avons ici un récit éloquent. Non, Vashti est plutôt, je reviens sur cette citation de Daniel Arnold que j'ai trouvé intéressant et je suis d'accord avec, elle est plutôt ici la figure des malheureux opprimés, de ceux qui sont abaissés sans la moindre pitié lorsqu'ils tentent de se révolter. Elle est ici le visage de celles et ceux qui sont abusés dans leur être, dans leur humanité. Et il faut du courage, mes amis, pour se révolter contre une telle puissance dont elle savait la cruauté. Je n'imagine pas un seul instant que Vashti ne savait pas qui était Xerxès et de quoi il était capable. Elle était reine. Je n'imagine pas non plus que c'était la première fois qu'elle devait être le jouet de son exhibition. Mais ce jour-là, à cet instant-là, trop c'était trop. Elle a trouvé le courage de dire stop aux abus de pouvoir, stop aux actes qui chosifient, stop à ce qui déshumanise, stop à ce qui humilie l'humanité en nous. C'est une lanceuse d'alerte pour moi avant l'heure. Et nous sommes ici dans une église baptiste et dans un lieu qui porte le nom de Saint Martin Luther King. Comment ne pas alors penser aussi à ce geste simple mais courageux, audacieux d'une certaine Rosa Parks. Oui, qui en 1955, dans un bus ségrégué où il fallait que les Noirs soient relégués au fond du bus pour laisser les bonnes places de devant aux Blancs, elle a volontairement, délibérément choisi ce jour-là de ne pas céder sa place et de dire non à ce système de la ségrégation, non à ce système qui nous oppose les uns les autres en fonction de notre couleur, de nos origines, non à ces fractures que nous voulons alimenter souvent. Alors, pas dans notre Église, je l'espère. Ce n'est pas un hasard que vous ayez choisi un pasteur noir, ce n'est pas juste un prête-nom pour enfin coller avec le nom Centre Martin Luther King. Dites-moi, je ne crois pas que ce soit ça. Je n'ai jamais lu les archives d'ailleurs de comment s'est passé mon choix, il faudrait peut-être que je m'y plonge. Mais je ne pense pas un seul instant que vous étiez motivé par cela. Je crois vraiment que c'est la beauté de l'Église, du Christ, d'être ce lieu où des hommes, des femmes de toutes les nations, de toutes les origines, de toutes les couleurs célèbrent ensemble l'amour de Jésus qui a fait d'eux des frères et sœurs. Rosa Parks a dit « Les gens disent toujours que je n'ai pas cédé mon siège parce que j'étais fatigué. » Mais non, la seule fatigue que j'avais, c'était de céder tout le temps. Vashti a peut-être cédé quelquefois. Et ce jour-là, elle a dit stop. Et ça doit donner la force à une personne aujourd'hui. Ça doit donner la force à quelqu'un aujourd'hui de se poser la question, et moi, ai-je déjà osé dire non pour que ça s'arrête? Tu as le droit et tu as même peut-être le pouvoir pour toi-même de dire non. Mais cela est difficile. Et je peux comprendre que tant de fois peut-être tu es hésité, tu es reculé. Et cela n'est pas ta faute, aucunement. Tu n'es pas responsable de ça. Mais tu peux dire non à une situation d'humiliation, à une situation de déshumanisation. Tu auras peut-être besoin d'être aidé. Je pensais aussi à cette jeune Malala Yousafzai. C'est une histoire, je cherchais un peu des noms pour illustrer le courage de Vashti, et pas forcément des noms de chrétiens uniquement. Parce que vous savez, des hommes et des femmes qui changent une histoire par le courage, ce n'est pas l'apanage des chrétiens. Cette jeune Malala, prix Nobel de la paix à l'âge de 17 ans seulement, a osé s'opposer aux talibans pour défendre le droit à l'éducation des jeunes filles. Elle s'est pris une balle dans la tête, mes amis, qui ne l'a pas tuée, pour avoir osé dire non aux injustices, aux abus. Oui, la Bible n'est pas une parole qui nous anesthésie devant les injustices de la vie. Ce n'est pas une parole qui nous conduit vers le déni des souffrances et des souffrances injustes de notre temps. Je crois au contraire que loin d'être un opium, elle est une sorte de bang, elle est une sorte de cloche qui résonne pour nous réveiller et pour nous inviter à avoir les yeux ouverts objectivement sur nos vies et sur la vie de nos semblables et de nous poser la question, suis-je prêt à oser un non qui peut mettre stop à une situation d'injustice, à une situation d'abus de pouvoir, d'abus spirituel, d'abus psychologique, d'abus sexuel, de quelques abus que ce soit, suis-je prêt? C'est le courage de Vashti. La deuxième figure de courage que j'ai croisée dans ma lecture, que vous croiserez dans l'ordre chronologique de leur apparition presque dans le récit, c'est le courage de Mardoché. Rester un homme debout quand tout le monde s'allonge, quand tout le monde s'écrase, quand tout le monde se prosterne. Vous le lirez au chapitre 3 du livre d'Esther, les versets 1 à 4. Quelque temps après ces événements, ce que je viens de raconter rapidement, l'empereur Xerxès éleva en dignité Aman, fils de Hammedata, du pays d'Agag. Il le promut au rang de premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller, se prosterner sur son passage. Mais Mardoché ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Ses collègues lui demandaient « Pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur ?» Tous les jours, il lui disait cela, mais Mardoché ne les écoutait pas. Finalement, c'est très humain, hein ? C'est très humain ça. Il y a certaines différences qui dérangent. Et on se dit, ici, on doit jouer au jeu « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Mais là, ce n'est pas le premier qui rira, aura perdu. C'est qu'il faut que j'aie des raisons de te tenir par la barbichette et que tu aies des raisons de me tenir. Il faut que j'aie quelque chose. Et donc, puisque Mardoché ne fait pas comme eux, ils vont balancer. Ils vont être dans la délation. Finalement, ils signalèrent la chose à Aman pour voir si Mardoché s'en tiendrait à ses paroles. Car il leur avait dit qu'il était juif. Ah. Aman est présenté comme un descendant d'Agag. Alors, certains commentateurs disent que eux-mêmes, cette tribu descendait des Amalécites, d'Amalek, une figure ennemie du peuple d'Israël. Et il vient d'être honoré, ennobli par Xerxès. Il est premier ministre et il est tout à fait normal dans ce contexte que tous ceux qui sont en dessous de lui, lui manifestent un acte de respect, d'allégeance à son autorité. Et ce geste de respect est une salutation. Voilà, on s'abaisse, certains on se prosterne. C'est un peu comme aujourd'hui, vous allez saluer le roi ou d'Angleterre, la reine, il y a tout un code. On répète la salutation. Moi, je ne pourrais pas vous, je pourrais pas essayer parce que je ne connais pas, je n'ai pas répété ça, je n'ai pas eu l'occasion de me présenter devant les rois ou les reines de ce monde. Donc, c'est d'abord quand même à ce premier niveau que se situe cette affaire. C'est une histoire de reconnaître l'honneur d'un supérieur. Et je ne pense pas que Mardoché veuille nous inciter à ne pas reconnaître l'honneur d'un supérieur. Je pense qu'il y a ici, entre les lignes du texte, quand même quelque chose qui est douloureux pour Mardoché. C'est que Aman, la Malécite, représente pour lui une figure d'aversion, en mon sens, hein, d'hostilité qui lui est insupportable. Mais je suppose également que Mardoché ressent déjà, ça c'est de l'implicite, hein, j'essaye de comprendre son attitude. Je n'ai pas trouvé d'explication plus convaincante que celle que j'essaye de me donner à moi-même. Mais peut-être est-il au courant de la haine qu'Aman a à l'égard de son peuple. Parce que pourquoi finalement cette mention à la fin de la phrase, il leur avait révélé qu'il était juif. Ce qu'Esther n'a pas encore révélé. Et la suite du récit nous apprendra le terrible piège, le terrible complot ourdi par Aman contre ce peuple-là. Moi, ce que j'aimerais en tirer, c'est ce courage que Mardoché a quand même d'être en vérité. Ce courage d'être soi-même en vérité, c'est ce qui a poussé des hommes comme Martin Luther King à ne pas se taire. À dire et à comprendre que quand un homme, une femme n'a pas encore trouvé et compris ce pourquoi elle est prête à mourir, elle n'a pas encore appris ou il n'a pas encore appris à vivre. J'avais 10 ans ou 11 ans quand Nelson Mandela a été libéré des prisons de l'Afrique du Sud dans les années 91. J'étais déjà sensibilisé à l'âge de 11 ans à l'injustice et à ce qu'un engagement contre une injustice et au nom d'un certain nombre de valeurs peut coûter à un homme ou à une femme. Et je pense que Mardoché me rappelle ces hommes, ces femmes qui, au nom de leurs valeurs, refusent de tout mettre par terre, refusent de tout piétiner, même lorsqu'ils sont sous pression. Mardoché était sous pression. Chaque jour, ceux qui étaient à côté de lui disaient « Pourquoi tu ne le fais pas ? Fais-le, c'est juste avec ton corps. Ton cœur n'y est pas, mais fais-le. C'est juste avec ton corps. » Mais Mardoché disait non. D'autres pensent que le fait qu'il soit juif ait pu également être une difficulté pour lui de ne pas donner une sorte d'exemple, de contre-exemple, en se prosternant, de ne pas mettre la gloire d'un homme au-dessus de la gloire de Dieu. Que cet acte, ce geste de prosternation pour lui était associé au culte, à son culte. Tu ne te prosterneras que devant l'Éternel, ton Dieu. Il y a donc peut-être un autre niveau de lecture et de compréhension de ce qui a ici mis en difficulté Mardoché. Mais il a fallu ce courage d'être, ce courage d'exister dans son identité à lui, dans son identité juive, ce courage d'exister dans sa différence, ce courage de ne plus se cacher et d'assumer pleinement de vivre un homme debout. Je voudrais t'encourager à ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, à ne pas vivre sous un masque, à ne pas être dans une pseudo-life, mais à découvrir, par la grâce de Dieu, que tu es aimé de Dieu, que tu es unique et que Dieu t'appelle à vivre debout et à assumer ta différence vraiment devant lui, avant tout. Alors cette différence, peut-être une différence de couleur, c'est une différence d'opinion, que sais-je encore?
Mais c'est Dieu. C'est Dieu seul qui connaît vraiment la profondeur de nos cœurs et de nos vies. Et devant lui, en tout cas devant lui, point n'est besoin de faire semblant. S'il est un lieu de vulnérabilité et d'authenticité que je trouve, moi, toujours précieux, c'est devant ce Seigneur qui me connaît et qui connaît toutes mes faiblesses, toutes mes craintes, toutes mes difficultés, tous mes combats, et qui m'autorise à vivre dans sa lumière et en vérité au milieu de mes frères et sœurs. Le courage de Mardoché est un courage qui a permis aussi d'entraîner Esther dans une dynamique de courage et de positionnement. C'est le troisième exemple, le courage d'Esther. Au chapitre suivant, chapitre 4, des versets 9 à 17, nous lisons que Hatak, donc un émissaire de Mardoché, revint et rapporta à Esther les paroles de Mardoché. Celle-ci ordonna à Hatak de rapporter sa réponse à Mardoché. Tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'empire savent bien qu'il y a une loi qui est la même pour tous, en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur sans avoir été convoqué par lui sera mis à mort, sauf si l'empereur lui tend son sceptre d'or. Alors seulement sa vie lui sera épargnée. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à me rendre chez l'empereur. Lorsqu'on eut rapporté à Mardoché les paroles d'Esther, il lui fit répondre, « Ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs. » Pour les Juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait, si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. Alors Esther fit porter cette réponse à Mardoché. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Mardoché partit et fit ce qu'Esther lui avait commandé. Et si c'était pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Peut-être que c'est la question que chacun peut se poser dans son contexte de vie. Peut-être à la maison, peut-être dans son couple, peut-être au travail, peut-être en famille, peut-être une circonstance dans laquelle tu es. Et si c'était pour un temps comme celui-ci, et si c'était pour une épreuve comme celle-ci, et si c'était pour une circonstance comme celle-ci, que tu en es là avec le Seigneur. Entendre cette parole comme une invitation à oser le courage et à oser la foi. Jusqu'ici, Esther était restée un personnage discret, dans une obéissance toujours servile. En réalité, jusqu'ici, Esther n'a pas existé véritablement en tant que sujet. Elle a rejoint ce harem de femmes parce qu'elle était déportée, elle était belle, elle avait des atouts, mais n'a pas choisi. Elle a été choisie ensuite par un empereur. Que valait son consentement? Elle n'a pas choisi. Et là, à ce moment critique de l'histoire de son peuple et de son histoire, Mardoché lui donne une parole qui va lui permettre de devenir en quelque sorte un sujet autonome, capable de choix. Un choix particulièrement crucial mais son choix à elle est demandé. Il y a un temps où on peut faire semblant, il y a un temps où on peut feinter, il y a un temps où on peut toujours s'arranger avec la réalité, avec sa vérité, un temps peut-être où le confort va être préférable à la justice et à la vérité. Mais Dieu va nous mettre, chacun pour sa part, à un moment donné dans notre vie, devant un temps où il faudra faire un choix de vie, un vrai choix pour être devant lui, un sujet pleinement autonome devant lui. Et Esther va choisir le courage de la foi. Elle va se résoudre à demander le soutien de Mardoché et de toute la communauté. Elle n'est pas seule. Elle a une communauté qui va la soutenir. Et elle va prendre une décision qui est un risque pour sa vie. Quel courage! Presque téméraire. Mais c'est un courage informé. C'est un courage situé. Et c'est un courage soutenu par d'autres qui permettent à Esther d'aller se présenter devant Mardoché. Elle risque sa vie pour que d'autres peut-être soient sauvés. J'habite à la banlieue de Nîmes, à Bouillargues, et la rue qui précède la mienne a été baptisée la rue du colonel Arnaud Beltrame. Je n'étais pas encore à Nîmes, je crois que j'étais à Grenoble, lorsqu'en 2018, ce gendarme, cet homme, Arnaud Beltrame, n'est pas resté dans l'indifférence. Il semblerait que sa devise, c'était « servir, c'est se dépasser », une parole qu'on lui prête. Un discours qu'il aurait tenu à l'école militaire Interarmes en 2001, 17 ans avant ce jour-là pour lui. Il n'a pas hésité. Il a pris la place de cet otage en sachant pertinemment qu'au bout, il pouvait y rester. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Servir, c'est se dépasser. Mais il me semble qu'on ne se dépasse que lorsqu'on sait qui l'on est, lorsqu'on a conscience de soi et lorsqu'on a conscience de son destin. Et voilà pourquoi j'aimerais prier vraiment pour que chacun de nous puisse vraiment trouver devant le Seigneur la réponse à cette question. Seigneur, quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui me pousse à être un homme, une femme debout? À quoi me suis-je engagé avec toi? Et devenir celui ou celle que Dieu veut que tu sois. Je voudrais terminer par un exemple d'engagement, de courage, au péril aussi de sa vie. Je vais profiter pour saluer ma sœur Valérie Duval-Poujol et sa famille. Je sais que, autant mieux je le dise, parce que tu es dans ma tête depuis que je parle de ce sujet, compte tenu de ton engagement important en France et à l'international sur ces questions de lutte contre les violences faites aux femmes. Et tu sais que tu es ma sœur d'armes puisque nous avons travaillé, nous travaillons encore dans la fédération ensemble. Et je te cite parce que j'ai cru reconnaître le portrait d'un prix Nobel de la paix, je ne sais pas si c'est bien le portrait du docteur Denis Mukwege. Et avec les enfants, nous avons essayé de lire en votre salon ce portrait magnifique. Et nous avons rencontré, et toi plus encore, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018. Et j'étais, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, au palais, au Grand Palais de Paris, où il y avait Anne Hidalgo et puis le docteur Denis Mukwege, fils d'un pasteur, si j'ai bien compris, qui est connu pour être l'homme qui répare les femmes, pour être l'homme qui risque sa vie en restant dans le Kivu pour soutenir ses victimes de drames de guerre, de violences, de vies brisées, de vies violées. Et il a écrit que « Comment me taire ? Comment me taire face à tout ça ?» Et chaque fois que je vois une de ces femmes violées, une de ces femmes abîmées, je pense à ma femme. Ça pourrait être ma femme, ça pourrait être ma mère, ça pourrait être une sœur, une fille. Il a dit, lors de son discours du Nobel à Oslo, le 10 décembre 2018, « Les armes les plus efficaces pour changer le monde sont la vérité et la justice. Les armes les plus efficaces pour changer le monde sont la vérité et la justice. Mes amis, sommes-nous prêts à perdre notre confort et peut-être plus au service de la vérité et de la justice? Voilà un appel qui est bien plus important que l'esprit partisan qui nous divise. Chacun, quel que soit finalement son engagement et sa conscience politique, peut choisir la vérité et la justice. Vashti nous a appris à dire non et a choisi le courage qui refuse l'humiliation. Mardoché nous a invités par son courage à rester debout, un courage de conviction. Esther nous invite par son courage à oser risquer, même s'il le faut, sa vie pour l'autre. Et ces trois figures nous rappellent finalement notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est toujours retrouvé aux côtés des opprimés, lui qui s'est toujours placé aux côtés, y compris des femmes de son temps, qui a refusé la chosification, qui a refusé les abus, qui a refusé l'humiliation. Lui, il a été humilié. Lui qui n'avait rien fait. Il nous a montré le courage de l'intégrité en refusant de céder aux nombreuses attaques de Satan. Prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous les royaumes. Lui aussi, il a refusé de se coucher, de ramper, de mordre la poussière. Il est resté fidèle jusqu'au bout. Et plus encore, à l'exemple du colonel Beltrame dont je parlais, Denis Mukwege, d'autres qui d'une certaine façon donnent leur vie, pour certains jusqu'au sens littéral, le Christ a donné une fois pour toutes sa vie pour que nous ayons la vie. Votre moment, un temps pour ceci, arrivera peut-être un jour et il ne vous préviendra pas. Peut-être que ça sera une conversation, peut-être que ça sera une vérité à réparer, peut-être que ça sera une injustice à dénoncer, peut-être que ça sera une personne à défendre. Ce jour-là, souvenez-vous simplement que le courage, ce n'est pas l'absence d'avoir peur. Le courage, c'est la décision d'agir malgré la peur. C'est la décision de dépasser la peur et d'agir en regardant à Dieu. Comme Vashti, je ne sais pas quelle était sa foi, mais comme Mardoché, comme Esther, levons-nous et agissons avec courage, avec humilité et avec foi. Amen.